quand les infos se brillent au fond de ma pensée, infinitive voix qui venait me bercer. Quand les infos se brillent au fond de ma pensée, infinitive.
Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues je vis la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en 1027, interrogez les rues d'un gars sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, si les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casse les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me petit futur, l'angoisse ou de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui ai laissé ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes de toutes les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. D'un rythme de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je le laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me petit futur, l'angoisse ou de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai dit gamin. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me petit futur, l'angoisse ou de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me petit futur, l'angoisse ou de la preuve. La rage.
Cher Marc, nous allons faire une
éditeur de La Rage dedans. Nous sommes de retour après 15 jours d'absence. Aujourd'hui, je reçois Marc Chenet. Marc, bonjour.
Bonjour.
Alors Marc, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ton parcours, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Avec plaisir. Alors, je viens de Paris. J'ai étudié les mathématiques à l'époque, après le bac, à Jussieu. Mathématiques... pures et appliquées. Et puis, je me suis tourné après le master vers l'économie. Parce que je pensais, j'avais cru comprendre que les maths ouvraient des clés, et ce qui est vrai, dans de nombreux domaines. Et j'avais commencé à suivre quelques cours d'économie. Et un de mes professeurs à l'époque m'avait expliqué effectivement que tout devenait mathématique, y compris l'économie, soi-disant. Et j'ai pris du recul par rapport à tout cela. Et voilà, donc j'ai continué dans ce domaine à Paris et puis à Genève où j'ai obtenu mon doctorat. Donc c'était en, en économie mathématique ou mathématiques financières. Après ça, je suis revenu à Paris. J'ai travaillé à HEC, où j'ai enseigné, où j'étais prof. Et puis, j'y suis resté un certain nombre d'années. J'ai passé mon habilitation à Paris. Et puis après ça, j'ai eu un poste à Zurich, d'où je viens maintenant. J'ai pris ma retraite de l'université de Zurich, il y a un peu plus d'un an. Et puis, voilà, en deux mots. Donc moi, je me suis investi, et de plus en plus de manière critique, parce que j'ai vu de l'intérieur, pas de l'intérieur d'une structure économique ou financière. J'étais à l'université, une structure académique, mais de l'intérieur de la matière, que ça dérapait. Qu'il y avait un grand écart entre ce qui est dit et ce qui est fait, et que, contrairement à ce que certains peuvent penser, l'économie, ce n'est pas la physique, donc c'est une science sociale. Il n'y a pas de loi intangible, de loi naturelle en économie, alors qu'il y en a en physique. Donc, si les lois actuelles ne nous plaisent pas, on peut changer d'économie pour avoir affaire à d'autres lois. Voilà en deux mots.
Merci, Marc. Alors, tu es à l'affiche d'un théâtre, le théâtre de l'opprimé, vendredi 30, donc aujourd'hui, samedi 31 janvier, lundi 2 février, à 20h30. Pourquoi avoir monté un spectacle, et comment tu as rencontré la compagnie qui monte ce spectacle avec toi?
Voilà, donc il s'agit de la compagnie Le Rouge et Le Vert, basée à Arles. Et on est rentré en contact un peu de manière, enfin par hasard, un concours de circonstances, heureux, on va dire. Et ils travaillaient sur un spectacle justement pour critiquer le monde de la finance. Donc j'ai lu, relu leurs documents, on en a parlé. Puis après ça, je leur ai dit, si vous voulez, je peux proposer quelque chose par ailleurs. Donc eux, ils ont un spectacle, j'y reviens rapidement, donc, où il y a des scènes qui mettent en lumière les injustices sociales. Hein. Donc il y a un milliardaire, il y a un SDF, il y a un paysan qui se suicide, différentes scènes amenées à réfléchir à la situation actuelle. Et un trader, etc. Et puis, moi, ce que j'amène, c'est que, voilà, sur la base de mon travail à l'université, j'ai écouté un ensemble de conférences, bien sûr. Et puis, j'ai eu affaire à des gens qui étaient invités. Et qui, donc, des directeurs, par exemple, de Banque Centrale, par exemple, ou d'autres. Et puis, j'écoute pour m'informer, pour savoir ce qui se passe. Puis, je vois qu'à partir d'un certain moment, ça devient ennuyeux. Parce que si on lit les journaux, la presse, on est à peu près au courant. Donc, j'ai commencé à prendre des notes, à repérer les mots, les substantifs qui revenaient de manière régulière. Et ça revient à satiété, donc risque, inflation, etc., etc., Bitcoin. Et puis après ça, ces mots sont utilisés dans un ordre, quel qu'il soit. Et puis, c'est souvent une langue de bois, une langue creuse. Parce que je peux écouter pendant une demi-heure, une heure, et puis qu'est-ce que j'en retire? Finalement, pas grand-chose. Donc, je leur ai proposé de venir un peu avec un jeu de cartes, en quelque sorte. Et sur chaque carte apparaît un substantif. Donc, encore une fois, risque, inflation, bitcoin, chômage, retraite, salaire. Et je bats ces cartes et je commence un discours. Moi, je suis présenté comme le directeur de la BERC, Banque Européenne Centrale. Christian Gardeleu pour Christine Lagarde. Et puis, j'essaye d'être le plus arrogant possible pour être à l'image de ces personnages. Et donc, voilà, je bats mes cartes devant tout le monde. Et puis, à chaque substantif, donc je rajoute un verbe, adverbe, adjectif, etc., une langue de bois. Et puis, quand j'ai terminé, bon, il y a quoi, 20-25 cartes, quand j'ai terminé, je reprends le paquet à l'envers, et je dis inversement, on serait tenté d'argumenter que, etc., et puis, etc., etc. Juste pour montrer que, voilà, c'est un langage abscon, complexe, et puis qui est fait pour impressionner le commun des mortels. Parce que c'est vrai, si on écoute le discours d'un économiste standard, après quelques minutes, on en a assez. Parce qu'on ne sait pas précisément où la personne veut en venir. C'est ennuyeux, c'est complexe. C'est fait exprès. C'est-à-dire que c'est souvent des gens qui apprennent à parler pour ne rien dire. Et ils le font avec un certain talent pour certains et pas pour d'autres. Donc voilà, ça m'a inspiré. Il y avait un comique à l'époque qui le faisait pour les politiciens français. Son nom m'échappe, il y a une vingtaine d'années. Je ne sais pas si tu t'en souviens, il disait que voilà, pour faire carrière en France, en tant que préfet ou homme politique, bah, il faut connaître une quinzaine de mots. Donc immigration,
c'était
ordre.
Des proches.
Non, c'est pas lui, c'est un autre. Il avait une queue de cheval. Mais peu importe, enfin, voilà, ça m'a inspiré dans un autre domaine. Et puis voilà, donc, c'est ce qu'on fait ensemble. Donc après ça, à la fin du spectacle, il y a une discussion. souvent assez animé sur des thèmes liés à la dette, justement liés au salaire, liés au chômage, différents thèmes actuels. Et l'idée, c'est de un peu briser l'isolement de chacun, parce qu'on est tous un peu isolés à notre manière. Et puis, c'est d'essayer de réfléchir à ce qui peut être fait, et ensemble, justement. Ça fait beaucoup de bien, c'est une bouffée d'oxygène.
Alors, bouffée d'oxygène, tu as écrit beaucoup de livres qui sont des bouffées d'oxygène. Et il y en a un sur lequel je voudrais qu'on revienne, c'est La crise permanente.
Alors, écrit il y a une dizaine d'années. Donc là, ce qui m'a inspiré, c'était la crise de 2008.
Des subprimes.
Voilà, c'est ça. Et puis, bon, là, j'ai analysé aussi à ma manière voilà, ce qui s'était passé. Et puis, j'ai comparé ça à l'enseignement. Alors, l'enseignement, bon, c'est circulaire, il n'y a rien à voir. C'est
tout
comme s'il ne s'était rien passé.
Alors que ça a été une crise majeure.
Majeure, effectivement, tu as raison. Les banques aux États-Unis et après ça en Europe ont cherché à créer ces problèmes.
Oui.
C'est-à-dire ils ont octroyé des prêts.
À des gens qui ne pouvaient pas.
Exactement.
Les rembourser.
Exactement.
Ensuite.
Ça s'appelait Ninja en anglais. Donc, no income, no job, no asset. Vous n'avez rien.
Mm-hmm.
Ne vous inquiétez pas, on vous octroie un prêt. On va même vous donner peut-être une voiture en prime.
Mm-hmm.
Et puis, le prêt, ils le titrisent, c'est-à-dire qu'ils le vendent à une autre institution financière pour ne pas conserver de risque sur leur bilan. Et puis, leur logique, c'est de dire, voilà, vous achetez pour une certaine valeur, et puis ça aura peut-être doublé en l'espace de 6 mois ou d'un an, ou ça sera multiplié, ça aura augmenté de 50%. Donc, même si vous n'avez rien, c'est pas grave. Et puis, à un moment donné, ça explose.
Mm.
Il n'y a pas besoin de docteur en économie pour comprendre que c'est extrêmement instable. Et ça a explosé. Et qui en a pâti ? Ben, pas les banques dites « too big to fail ». C'est-à-dire qu'elles sont sauvées, renflouées par le contribuable. Mais le commun des mortels, c'est-à-dire qu'il y a environ 30 millions de personnes de par le monde qui ont soit perdu un travail, qui n'ont pouvaient plus payer le loyer, qui ont dû quitter leur maison.
Voilà.
Insupportable. Et les banquiers en question étaient too big to jail, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais en prison quasiment, ces gens-là. Donc ils parlent beaucoup de libéralisme, de ceci, de cela.
Mais ils ont créé une impunité.
Impunité totale. Et eux n'assument pas les risques qu'ils prennent. Alors, encore une fois, ils se réfèrent au libéralisme. La première idée, c'est de dire, ils assument les risques. Non, ils n'assument pas. C'est nous qu'ils assumons pour eux.
Ils ont socialisé les risques.
Exactement.
Et ils ont
privatisé les bénéfices.
Tout à fait.
Exactement.
Et ça, tu le montres bien dans Crise permanente.
Ben, ça, c'était l'idée. Et puis après ça, de revenir sur un ensemble de concepts et de critiquer la matière elle-même. Ce que j'ai essayé de poursuivre après ça récemment avec l'autre livre. Mais ça m'a mis en marge, on va dire, dans mon domaine déjà, parce qu'il y a une fermeture d'esprit que j'ai commencé à critiquer à l'époque dans ce premier livre et que j'ai fait encore récemment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de collègues qui reçoivent... il y a deux grands groupes de collègues dans ce domaine, je veux dire,
oui.
En finance, en économie financière. Il y a les professeurs qui reçoivent de l'argent des grandes banques et puis ceux qui aspirent à en recevoir. Et moi, je fais partie d'une petite minorité, je ne suis pas le seul.
Hétérodoxe.
Oui, hétérodoxe, on peut dire comme ça, enfin, qui pense différemment, en tout cas.
Mmh, oui,
moi, je pense qu'en tant que prof, il y a un contrat implicite avec ceux qui les financent, les contribuables, c'est-à-dire d'essayer d'identifier les problèmes et de proposer des solutions et d'en discuter, mais pas de se fermer dans un joli bureau et puis de pas regarder ce qu'il y a autour. Non, 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 surtout pas. Donc voilà, ça crée des problèmes. Il y a une volonté de rester neutre, pour reprendre leur terme, de ne pas s'impliquer dans la réalité des choses. Et c'est assez insupportable. Alors que dans d'autres domaines, par exemple le changement climatique, réchauffement climatique, les professeurs s'engagent, ne serait-ce que parce qu'ils écrivent un rapport, les gens du GIEC par exemple.
Oui.
Par exemple, sur les questions des pandémies, les professeurs de médecine qui se sont engagés dans un sens ou dans un autre. Mais là, pour les crises financières, c'est tout de même...
Silence.
Silence radio, qu'elle voilà. Dit aujourd'hui, à part quelques exceptions, bien sûr. Et ça pose problème. Donc, ça ne fait que s'accentuer.
Alors, il y a une catégorie d'économistes, les économistes atterrés, qui avaient prévu la crise des subprimes, qui n'ont pas été écoutés, et qui sont d'ailleurs toujours pas écoutés, et qui ont fondé une école qui s'appelle celle des économistes atterrés. Mmh. Est-ce que tu peux te dire proche d'eux ou... Parce que tu as fait partie de Finance Watch.
Oui, j'étais membre à un certain moment de Finance Watch à Bruxelles. Ils font un travail très intéressant. Remarquable, effectivement. d'études critiques du monde de la finance avec des moyens relativement limités, malheureusement.
Et donc, si on veut leur faire un don, on peut aller sur leur site.
Voilà, c'est ça. Travail remarquable en différentes langues, donc français, allemand, anglais, espagnol, et une petite équipe dédiée. Et face à eux, ils se trouvent confrontés à des groupes de pression très puissants.
Très, très puissants.
Qui essayent de les tourner en ridicule ou qui les ignorent. Donc oui, bien sûr, je ne peux que recommander d'aller sur leur site et d'analyser ce qui a été publié. Et ce qui est publié encore, malgré les pressions diverses et variées.
Alors, est-ce que tu dirais que le fait d'être avec la compagnie Rouge et Vert et de faire cette pièce de théâtre est une manière d'apporter au public la connaissance et les moyens de prendre en main ces questions financières?
Oui.
De façon ludique, oui. Et de façon pragmatique.
Voilà.
Parce qu'il faut proposer aux gens le lexique qu'ils comprennent, qu'ils soient à portée de leurs moyens cognitifs. Il faut être entendable par tout le monde, monsieur tout le monde, et il faut leur donner les moyens de se saisir des enjeux.
Oui.
Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on est gouverné par cette économie, et cette économie qui devient folle.
C'est ça. On est pris dans les rouages d'une économie folle, et il ne faut pas se laisser écraser.
Non.
Alors, oui, tu as employé deux termes, donc ludique, c'est ça. Et puis, qu'est-ce que tu as dit d'autre? Oui.
Monsieur tout le monde.
Oui,
pour monsieur ou madame tout le monde.
Voilà, c'est ça. Alors, ludique, oui, c'est bien. Montrer qu'on a affaire à des individus grotesques.
Oui.
Bon, je donne un exemple. Les milliardaires sont grotesques. Alors, considérons quelqu'un qui possède 100 milliards d'euros. Elon Musk en a plus. Alors, je pose la question souvent à la fin du spectacle, lors de la discussion. Imaginons que cette personne ait des billets de 100 euros seulement et qu'il les entasse les uns au-dessus des autres. Quelle serait la hauteur atteinte, à votre avis? Alors, est-ce qu'on parle de mètres, de kilomètres? La hauteur atteinte, c'est, on est tous assis, 120 kilomètres. On sait dire le délire. Et 100 milliards d'euros, encore une fois, c'est moins que ce qu'on possède un certain nombre de personnes.
Alors,
qu'est-ce qu'on fait de 120 km de billets de 100 euros? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut être malade. En médecine, on apprend que la boulimie est une maladie.
Tout à fait.
En économie, en finance, on trouve que c'est bien. Il y a certainement un problème là. Donc, ludique, transformer tout ça. Mais tu voulais dire quelque chose, excuse-moi.
Alors, je voulais dire que, par exemple, M. Bernard Arnault, qui possède beaucoup de journaux financiers, comme par hasard.
Grand philanthrope.
Un grand oui, si on veut. Si on compare le montant de sa fortune, il faut imaginer que vous allez avoir 1500 euros tous les jours pendant quelque chose comme 600 ans.
C'est dire.
Voilà.
Et entre-temps, sa fortune aura doublé, triplé.
Quatre même.
C'est ça. Non, mais c'est un délire. Il refuse...
Et il refuse la taxe Zuckerman,
voilà.
De 2%.
Et on a vu que ces gens-là ne payaient pas l'impôt, ou quasiment pas d'impôt sur le revenu, etc.
Tout à fait. Il y a certains contribuables qui mettent zéro, parce qu'ils ont des holdings familiales.
C'est pratique.
Qui sont immatriculés dans les paradis fiscaux. Donc
très
on va
pratique.
Y venir.
Voilà, c'est ça.
Donc, les paradis fiscaux, beaucoup sont membres de l'Union Européenne, parce qu'ils sont membres fondateurs, comme le Luxembourg.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Il n'y a pas que la Suisse.
Oui. Non, mais
qui n'aime pas être taxé de paradis fiscal, mais il y a le Luxembourg qui est un membre fondateur de l'Union européenne.
Juste pour revenir, avant de traiter la question des paradis fiscaux, juste un point lié à la complexité de permettre, je crois que tu as employé ce terme, permettre au
monsieur tout le monde
de comprendre. Je pense que là aussi, il faut faire la différence entre l'économie et la physique. La complexité en physique, elle est naturelle. Elle provient du monde qui nous entoure et on a besoin de s'adapter à elle. En économie, en finance, elle est souvent artificielle. Elle est faite exprès pour que justement, monsieur tout le monde, pour reprendre l'expression,
ne comprenne rien
et passe à autre chose et délègue un certain nombre d'individus des décisions qui sont importantes, qui sont à prendre. Donc voilà, ça, il faut bien le mettre en évidence et ça, c'est un des objectifs de ce spectacle. Mettre en évidence le caractère artificiel de ce langage abscon, de cette complexité qui n'apporte rien. Donc, aller au fond des choses et montrer que ce qui reste doit être compréhensible, d'une part, et doit être critiqué, d'autre part. Voilà, donc, mettre cela en lumière.
Parce qu'on, tu parce mets que... la finance à portée de tout le monde.
Enfin, les principes de base sont simples. C'est-à-dire que si on veut comprendre le rôle d'une banque, qu'est-ce que ça serait ? Octroyer des crédits à des entreprises susceptibles de rembourser, par exemple.
Ou à
des ménages, effectivement. Ou pour les entreprises dans des projets durables. Voilà, ménage qui veut acheter un appartement. Mais là, on se trouve... Donc ça, c'est facile à comprendre, à la limite.
Oui.
Mais là, on se trouve face à une complexité incroyable. Produits, justement...
Les produits structurés.
Structurés, des produits dérivés, qui sont apparus il y a à peu près une quarantaine d'années,
voilà.
Qui ne sont plus gouvernés par les lois de l'économie actuelle, offre et demande, je veux dire, qui sont gouvernés par les lois des probabilités. C'est pour ça que j'ai commencé à m'y intéresser à l'époque, les lois du hasard. Mm-hmm. Et le hasard, je vois un rôle clé dans ce domaine, parce que finalement, quelqu'un est riche, Elon Musk, il a eu de la chance, et quelqu'un est pauvre, il n'a pas eu de chance. Tant pis, c'est comme ça, c'est le hasard. Donc, tout officiellement régi par le hasard, je veux dire, dans le monde de la finance, c'est le hasard, c'est les probabilités. Et si vous ne comprenez pas, essayez de comprendre et revenez la prochaine fois. Non, il faut refuser cela et creuser un peu le sujet.
Et surtout, le mérite. Qu'est-ce que Elon Musk a mérité d'avoir sa fortune ? Pas du tout.
Non,
sachant ses origines.
Pas. Exactement, exactement.
Les origines du personnage, il a été élevé dans un régime qui était celui de l'apartheid, c'est-à-dire...
C'est ça.
Régime qui séparait les individus par leur couleur de peau.
C'est ça.
Et aussi par leurs conditions financières en Afrique du Sud. Régime qui a été élaboré pendant la Seconde Guerre mondiale sur les théories racistes.
C'est ça.
Du nazisme.
Insupportable.
Qui a opprimé pendant près de... assez longtemps les Noirs et les Métis.
C'est
de
ça.
Ce pays. Qui était une honte pour tout le continent.
Exactement.
Et pour toute l'humanité, puisque l'apartheid a été décrété crime contre l'humanité.
Mmh.
Il y a des crimes d'apartheid qui sont imprescriptibles.
Mmh.
Voilà. Et M. Elon Musk, mais il n'est pas le seul. Mmh. Il y a 4 Sud-Africains dans l'entourage de M. Trump. Il y a M. Elon Musk. Il y a David Sachs, qui s'occupe des crypto-monnaies.
Mmh.
Il y a Raleigh Botha, qui est le petit-fils de Peter Botha, l'homme politique, oui. Et il y a Peter Thiel.
Qui était à Paris
ces jours-ci.
Invité par l'Académie.
Voilà, qui a intronisé M. Bernard Arnault.
Incroyable.
Incroyable. Peter Thiel a fondé Palantir.
C'est ça.
Palantir, c'est pas n'importe quoi. C'est l'entreprise qui travaille pour la DGSI, ou des compagnies comme SNCF ou Air France, et qui met en fiche les individus.
Mmh.
Donc, il les met en fiche d'après leur dangerosité. Donc, inutile de vous dire qu'un certain nombre d'entre nous sont fichés par Palantir. Mais Elon Musk et Peter Thiel ont fondé, au début de leur carrière, PayPal.
Mmh.
PayPal les a rendus riches, et PayPal, au départ... était inspiré des lois de l'apartheid, c'est-à-dire que ni les Noirs ni les femmes n'étaient admis dans leur rang.
À la base. Hein.
Voilà. Il a fallu faire des procès pour obtenir que les employés puissent être femmes ou Noirs. Donc, tout un programme.
Donc voilà, voilà qui on a affaire. Et puis Trump et tout son entourage, etc. Individu douteux, dangereux, là, certainement. Peut-être pour revenir aux paradis fiscaux, parce qu'on avait perdu le film. Là, il y a une grande hypocrisie. Si les gouvernements du G7 voulaient en finir avec les paradis fiscaux, ça serait
une
fait
heure
tout de suite.
Suffirait.
Voilà.
Suffirait
de dire, on n'accepte plus aucun virement en provenance ou vers les paradis fiscaux, et on ne respecte plus aucun contrat établi par un notaire, par exemple, ou un avocat, établi dans un paradis fiscal. Ça serait tout de suite terminé. Ils ne
une
veulent
heure.
Pas, parce qu'ils ont leur raison, bien sûr. Ça les arrange.
Disons que il y a des ça a été établi par deux chercheurs, Alain Deneau et Vincent Piollier. Il y a des raisons coloniales aux paradis fiscaux, c'est-à-dire que les paradis fiscaux sont les chasses gardées d'empires coloniaux.
Mm-hmm.
Par exemple, la City de Londres gère 50% des paradis fiscaux de la planète.
Anglo-saxonne et autres.
Nous Français, nous gérons Andorre parce que le président de la République est coprince d'Andorre, et nous gérons Monaco. Qui a permis à beaucoup de scandales de se développer via Monaco. Donc, ce n'est pas rien.
Mmh.
Et nous gérons aussi Saint-Martin et Saint-Barthélemy, île franco-néerlandaise.
J'imagine qu'il y a des intérêts au Luxembourg aussi.
Tout à fait. Et nous avons d'autres territoires ultramarins qui peuvent être considérés comme dans la catégorie des paradis fiscaux.
Mmh.
Donc, c'est bien pratique.
Certainement.
Voilà. Donc, il y a une grande hypocrisie. Effectivement, il suffirait de faire ce que...
Ça serait tout de suite fait.
En une heure, ce serait réglé. Donc, il ne faut pas dire que les paradis fiscaux sont un problème. C'est une volonté politique.
C'est la passivité d'un ensemble de personnes qui est un problème.
Voilà.
Par rapport à cela.
Tout à fait.
Whisper, jet clipper, jet turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Je sais plus où je suis rendu. J'ai été au sud du sud, au soleil, le blanc rouge, les palmiers et les cocotiers glacés dans les peaux aux esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées farcies. Et toujours la Sophie venait de partir sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. Dans le vent, c'est absolument, absolument, absolument très salissant. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus, je sais plus, je sais plus, je suis rendu. Sophie à moi, a pris une compagnie qui volait sur des tapis de Turquie. C'est plus parti. Et moi, à propos, et moi, je suis rendu à dos du chameau. Je préfère mon Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. J'ai pu, je ne sais plus où je suis, où je suis rendu. Puis j'ai fait une chute, une crise de chute en parachute. Et j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit avec mon meilleur ami et surtout mon pot de biscuit. Pan American.
Chers auditeurs de La Rage de Doron, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission avec Marc Chenet sur la grande fête à la finance. Spectacle qui est au théâtre de l'opprimé, qui vendredi 30, samedi 31 janvier, lundi 2 février à 20h30. Réservation.
Et dimanche à 17h.
Dimanche à 17h. Ouais. Voilà, 1er février. Alors, la réservation, vous pouvez la faire au 01 40 43 40 44 44 ou au 06 13 82 08 96. Très important. Voilà, alors Marc, on va revenir sur ton dernier livre, Stop,
merci,
que nous avons la chance à Publico de vendre aux éditions d'en bas. Voilà. Si je disais, c'est un manifeste contre un crime contre l'humanité.
Oui, on a affaire à un système en roue libre, un système capitaliste débridé, et par rapport effectivement aux destructions qu'il génère, on les observe. La guerre est un business.
Oui.
Le sang se paye en dollars et les destructions se mesurent en rendement financier. C'est un système moribond que moi je dénonce. Je ne suis pas le seul, heureusement d'ailleurs. Il y a beaucoup le font. Je dénonce à ma manière. Et pourquoi stop ? Parce que quand on est dans une impasse, on dit stop. Et au lieu d'accélérer, comme pousse à le faire la plupart des politiciens, on change de direction. On est dans une impasse socialement, nous, ce qui reste de la société, parce que tous les signaux vitaux sont au rouge. Réchauffement climatique, perte de biodiversité, injustice sociale insupportable, guerre permanente, un système mafieux qui s'est mis en place sans aucun voile. Les choses sont très claires, un racket organisé. Donc, il faut réagir sur cette base. Et donc, stop, réfléchissons, pensons et changeons de direction. C'est vraiment ça l'idée. Voilà, en deux mots.
D'accord. Alors, c'est le cadre. Les moyens.
Alors, comment on y arrive ?
Oui.
Comment on y arrive ? Je ne vois que des mouvements sociaux, en dernière instance. C'est-à-dire, briser l'isolement. Parce qu'on est tous un peu isolés d'une manière ou d'une autre. Donc, briser notre isolement. Et il y a beaucoup de moyens. Donc, un spectacle, des réunions... des livres, ne pas rester seul. Et puis après ça, parce que beaucoup de gens se posent des questions, mais ensemble, on peut créer une intelligence collective, chacun apporte quelque chose. Et après ça, parce qu'il n'y a pas d'autre solution qu'un individu seul ne peut rien faire, de toute manière, que justement des mouvements sociaux. Donc des réunions, des manifestations, des grèves, etc. Bloquer cette machine folle. Pourquoi y a-t-il autant de production d'armes ? C'est une folie complète.
Oui.
Cette marche vers la guerre en Europe... À gauche comme à droite, on dirait que c'est bien. Personne n'a la critique. En 1914, il y avait au moins Jean Jaurès ici, dans cette ville,
oui,
qui s'était exprimé clairement contre la guerre de 14.
Et enfin, il a été abattu.
Il était abattu, assassiné. Mais il y avait une multitude qui était en face avec lui. Là, qu'est-ce que vous avez à gauche ? Mais bon, beaucoup sont poussés à la guerre, tout ça. Encore une fois, c'est insupportable ce militarisme ambiant. Les médias sont... Une grande partie des médias... les médias pour la plupart sont dominés donc par des milliardaires d'extrême droite. Et puis les autres c'est rare d'avoir une critique du militarisme, du nationalisme, de ces guerres sans fin. C'est insupportable. Emmanuel Macron qui dit que la croissance va être augmentée, va être promue grâce à la production d'armes en tout genre. Et stop. Non, on veut vivre, on ne veut pas mourir, on ne veut pas tuer, on veut vivre, ça suffit.
Et on ne veut pas que nos enfants meurent à la guerre.
Surtout pas.
Surtout que ce ne sont pas ceux qui disent que nos enfants vont mourir, qui vont envoyer leurs enfants mourir.
C'est ça, eux et ni eux-mêmes. Donc eux, ils disposent de bunkers sécurisés et ils poussent les autres à se faire massacrer. Ils ont besoin de chair à canon. C'est insupportable, il faut le dire clairement. Et voilà, il faut être suffisamment nombreux pour le faire savoir, pour se manifester.
Alors, le théâtre de l'opprimé, comment tu as réussi à les convaincre de prendre le spectacle ?
Bon, ce n'est pas moi, en fait, c'est la compagnie Le Rouge et le Vert qui avait des contacts déjà. Et puis, d'après ce que j'ai cru comprendre, donc, c'est un théâtre engagé, donc ça convient
tout à
bien,
fait.
À différents niveaux. qui souhaitent justement faire participer le public. On doit cesser d'être passif pour devenir actif. C'est vrai, pas être vrai au théâtre, mais surtout dans la vie telle qu'elle est. Prendre nos destins en main. Ça, je trouve ça intéressant, sympathique. Voilà. Donc, ils cherchent aussi des spectacles apparemment un peu différents, engagés, puisque nous, on l'est aussi. Mm-hmm. Et puis, on verra si la sauce prend.
Donc, si on y a pas de raison qu'elle ne prenne pas.
Ou 50 ou plus. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la discussion après. Sur les dettes, est-ce qu'il faut rembourser les dettes? Est-ce que guerre, pas guerre?
Quand la dette est odieuse, non.
Non, certainement pas. Et puis ce nous, nous devons rembourser, nous devons faire la paix. C'est qui nous? Nous, ça, c'est une discussion qu'on a souvent lors des débats. Moi, je ne raisonne pas dans ce cadre, parce que nous, ça veut dire qu'on est, toi et moi, sur le même bateau que Macron. Non, on n'a pas du tout les mêmes intérêts.
Ah non,
pas du tout. Donc déjà, je récuse. Il faut que nous remboursions la dette. Non, c'est pas ma dette. Personne nous a demandé, ni à toi, ni à moi, ni aux autres,
si
on voulait produire plus d'armes et donc s'endetter. Personne nous a demandé s'il fallait permettre aux super riches de ne pas payer d'impôts et que nous, on devait les payer à leur place. Non. Donc moi, je ne me sens pas du tout concerné.
Ni acheter un troisième porte-avions.
C'est ça. Absurde, complètement absurde. Voilà, c'est un roi, un empereur qui décide. Monsieur décide ceci ou cela. Ça a des impacts très forts pour beaucoup de monde. Une démocratie, c'est une plaisanterie. Ces gouvernements sont légaux, mais n'ont pas de légitimité. Même s'ils ont été élus, on peut le supposer légalement. Légitimité dans le sens où ils sont incapables de protéger les populations.
Le bien commun.
Exactement, tu as raison. Le bien commun, parce que c'est la base. Le contrat social, le bien commun. Non. Donc, au lieu de cela, le bien commun est piétiné continuellement. Donc, ils n'ont pas de légitimité.
Alors, le théâtre de l'opprimé prend ta pièce.
Notre pièce avec
votre. Oui, avec la compagnie.
C'est ça.
Alors, je rappelle les dates. Vendredi 30, donc aujourd'hui.
On apprend demain, vendredi 30.
Non, aujourd'hui.
Ah oui, c'est vrai, oui, bien sûr, oui.
Aujourd'hui, samedi 31 janvier, lundi 2 février et le dimanche 1er février. À 17h le dimanche, mais les autres jours, c'est à 20h30. On peut réserver au 01 43 40 44 deux fois. Ou au 06 13 82 08 96. Ton livre est disponible à Publico, notre librairie chérie, 145 rue Amelot, métro République, Oberkampf, Foufille du Calvaire. Je voudrais qu'on revienne sur le spectacle, la genèse du spectacle. La compagnie présente des personnages. Dans un ordre bien
structuré.
Qui a structuré le... C'est un travail commun ou bien c'est...
Non, les scènes, c'est eux qui les ont mises en place, écrites, mises en place et structurées, dans l'ordre.
D'après ton synopsis.
Non, c'est eux qui l'ont écrit. Moi, je me suis borné à fournir quelques commentaires. Ils me demandaient un peu des commentaires sur le fond, c'est-à-dire parce qu'il y a, bien sûr, on touche le monde de la finance. Et comme j'enseignais dans ce domaine, on a interagi sur ces questions-là, ce qui pouvait être apporté, modifié éventuellement, mais ceux qui ont apporté la structure, l'écriture, oui, c'est ça, réaliste, mettre à jour, introduire certains aspects, mais la base, l'ossature vient d'eux, eux deux, et ouais, c'était juste une discussion pour éventuellement, s'ils le souhaitaient, changer ceci ou cela marginalement, et mais ça faisait longtemps qu'ils y réfléchissaient, de leur côté.
Oui.
Ils sont en contact avec ATTAC, le groupe ATTAC, etc.
Alors, ATTAC, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, c'est le site attac.org. Ils font souvent des happenings à la Samaritaine, où ils expliquent qu'il faudrait que M. Bernard Arnault paye ses impôts. Et ils ont un hashtag, tax the rich. Il faut taxer les riches, lesquels ne veulent pas.
Non.
Ni les super riches, comme M. Bernard Arnault. Il n'y a qu'à voir le matraquage anti-tax Zuckman.
C'est ça.
Un malheureux 2% sur des gens qui ne payent rien.
Voilà. Et comme certains l'ont dit, 2%, ce n'est pas ce qu'il faudrait leur prendre, c'est ce qu'il faudrait leur laisser, dans le meilleur des cas.
Oui. Alors, excellent. J'osais pas te le demander. Mais
ça serait déjà beaucoup, 2%, vu la fortune qu'ils ont.
Merci. Et ce n'est pas n'importe qui le dit, c'est un professeur de finance.
C'est insupportable.
C'est insupportable.
Cette arrogance.
Oui.
Et non, il faut lire. Je pense qu'un spectacle permet de détrôner, de mettre en évidence le caractère grotesque,
tout à fait,
obscène de ces individus, de les détrôner, ne serait-ce que mentalement déjà, dire mais oui, ils sont stupides, mm-hmm, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Mm-hmm. Donc voilà, alors qu'ils apparaissent matin, midi et soir dans les médias, oui, qui sont sur les premières pages aussi,
qui les mettent en scène
et qui les médias aussi,
qui les défient.
Voilà, c'est ça. Bah, qu'on se moque déjà, c'est une première étape, se moquer. Et encore une fois,
ils tombent de leur piédestal.
Voilà, ils tombent et c'est déjà beaucoup. C'est déjà une première étape.
Et après la réflexion.
Oui, c'est ça. Et ça va dans la direction la réflexion critique. Pour enclencher, c'est ça, un processus d'intelligence collective, de pas en rester là, bouche bée devant des individus grotesques. C'est absurde, non ? Non, donc ça suffit, donc c'est un peu l'idée du spectacle, c'est l'idée du livre, il y a des synergies, un peu, bien sûr.
Parce que le libéralisme, prenons par exemple le cas des États-Unis, jusqu'à une époque, jusqu'aux années 60, les milliardaires payaient 98% d'impôts.
Oui, c'était énorme.
Et c'était les États-Unis.
C'était Roosevelt, donc le New Deal à l'époque.
Voilà,
et ça a fonctionné jusqu'à Reagan.
Voilà, Reagan a déréglementé.
C'est ça.
Et Margaret Thatcher lui a emboîté le pas pour l'Europe, pour notre grand désespoir, et nous en sommes là.
Mais tu sais, c'est ce qui s'appelle le néolibéralisme, terme qui a été inventé par les libéraux eux-mêmes.
Tout à fait.
Le congrès Lippmann, si je ne m'abuse, en 1938 à Paris.
Oui.
Avec des libéraux de l'époque, mais qui connaissaient leur domaine, et puis qui se sont posés la question de savoir ce que le libéralisme, comme doctrine, pouvait faire, mm-hmm, à cette époque. Donc ils ont inventé eux-mêmes ce terme. Et ils étaient en marge, ils sont restés en marge jusqu'aux années Reagan ou un peu avant, parce qu'avant c'était plutôt après-guerre, et pendant la guerre c'était plutôt une approche keynésienne.
Tout à fait.
Donc le rôle de l'État, etc.
Alors, Jean-Maynard Keynes, le plus grand, qui est tenu pour un des plus grands économistes du XXe siècle, mmh, Karl Marx étant celui du XIXe, mmh, qu'on le veuille ou non.
Oui, effectivement.
Voilà. Monsieur Keynes, ses théories ont permis le New Deal et, mmh, de sortir par le haut une partie des pays de la crise, mmh, de 29. Et c'est les Trente Glorieuses qu'il y a eu dans le monde, mmh, lui doivent beaucoup.
Oui.
Voilà. Donc, pourquoi le néolibéralisme, c'est-à-dire la mise à bas de Keynes, quelque part, c'est parce qu'il y a eu un égoïsme effréné. Ils ont vu les poches de résistance et ils ont compris qu'en démantelant l'État-providence, mmh, ils allaient augmenter leur fortune.
Et vite, oui. Effectivement, une politique de type keynésienne fonctionne d'autant mieux qu'il y a une guerre, malheureusement. Quand tout est détruit, il est évident que l'État, dans le cadre capitaliste, joue un rôle pour reconstruire. Donc, mmh, c'est facile de générer une croissance, facile entre guillemets, parce que l'Europe était détruite après la Seconde Guerre mondiale.
Tout à fait. Il y avait
donc
le plan Marshall.
On part presque zéro, voilà. Et puis après ça, ça redémarre. Et Keynes, c'était quelqu'un, bien sûr, qui avait réfléchi, qui avait analysé toutes ces questions.
Mm-hmm.
Et
Il avait analysé à l'avance, parce qu'il avait démissionné de son poste de gouverneur de la Banque d'Angleterre, parce qu'il avait anticipé que les conditions qu'on faisait à l'Allemagne allaient être le lit d'une autre guerre.
Effectivement, juste.
Et ça a été le cas pour la Seconde Guerre mondiale.
Mais c'est quelqu'un qui a analysé la Première Guerre mondiale.
Mm-hmm.
Et qui analysait la grande crise.
Voilà.
Donc, quand il y a une guerre mondiale de cette envergure, et il y a une telle crise, effectivement, ça doit amener à réfléchir.
Oui.
Lui, il l'a fait dans le cadre du capitalisme, et il a proposé des solutions qui ont été en partie adoptées.
Mm-hmm.
Bon, ça a volé en éclats dans les années, fin des années 70, début des années 80.
Avec le premier choc pétrolier.
Oui, c'est ça, guerre du Vietnam, la fin des accords de Bretton Woods, mm-hmm, qui liait le dollar à l'or. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce qu'il y avait trop de dettes, le système devenait instable, l'Europe s'était reconstruite, les foyers avaient un frigo, une voiture, ceci, cela.
Mais il fallait peut-être changer de modèle de croissance à ce moment-là.
Voilà, ils ont. Alors, certains politiciens, tu as parlé de Reagan, de Thatcher, mm-hmm, et je ferai allusion à un autre, un dictateur, Pinochet au Chili.
Voilà, les Chicago Boys.
Chicago Boys, voilà.
Avec Milton Friedman, cette époque.
Voilà, a été le laboratoire du néolibéralisme.
Voilà. C'est-à-dire qu'on a fait tomber Allende pour servir ses intérêts.
Oui,
ça a servi d'école.
C'est ça,
On appelle ça les Chicago Boys.
Chicago Boys, exactement. Et juste une parenthèse, par rapport au prix Nobel en économie qui n'existe pas. Il y a beaucoup de Chicago, de représentants de l'école de Chicago parmi les soi-disant prix Nobel. Je dis soi-disant, mmh, soi-disant prix Nobel parce que M. Nobel n'a jamais voulu qu'on décerne un prix en son nom en économie, ni en maths d'ailleurs.
Oui, exact.
Simplement, les mathématiciens ont été corrects. Ils ont créé leur propre prix, la médaille Field.
Oui.
En économie, alors certains en Suède, tout d'abord, puis après ça s'est généralisé, mais mm-hmm. ont créé le prix de la Banque de Suède en voilà. mémoire de M. Nobel. Mais si il voulait vraiment respecter sa mémoire, ils auraient dû intégrer qu'il ne voulait pas de prix en son nom en économie.
Tout à fait.
Et donc, c'était l'époque où, en Suède, justement, il y avait Olaf Palme. Et c'était une politique voilà. qui ne correspondait pas aux souhaits, aux desiderata,
des
Chicago Boys.
On donc, a assassiné le Premier ministre Olof Palme.
Vous vous souvenez, tu te souviens. Et bien sûr, donc voilà, c'est le néolibéralisme qui a été mis en place.
Alors, pour le Premier ministre Olof Palme, pendant très longtemps, même M. Mandela a demandé à ce qu'on verse des archives dans cet assassinat. Il y avait ce qu'on appelait la piste sud-africaine. Mm-hmm. Parce que Olof Palme, quand il était aux manettes de la Suède, il finançait à 95% le budget de l'ANC, l'African National Congress, qui était en lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, beaucoup ont pensé que c'était les blancs racistes et les commanditaires de l'assassinat de M. Palme. Mmh. Mmh. Voilà. Donc, Mandela, une fois au pouvoir, il a demandé à ce qu'on investigue sur cette piste.
Et où est-ce que ça en est, d'ailleurs ?
Ah ben, ça a été rejeté, bizarrement. Mmh. Enfin, pour un certain nombre d'entre nous qui avons lutté contre l'apartheid et qui avons lutté pour que M. Mandela sorte de prison, on a considéré que cette piste était intéressante, à plus d'un titre. Mmh. Parce que quand on voit que beaucoup de membres de la police qui étaient censés s'occuper du dossier de M. Palme ou qui étaient sur les lieux étaient plus ou moins d'extrême droite,
oui, d'accord.
on s'est posé beaucoup de questions là-dessus.
Oui, certainement.
Voilà. Donc, parenthèse.
Oui, non, effectivement. Donc, où est-ce qu'on est ? Ah oui, néolibéralisme. Donc là où je voulais en venir, c'est que les crises débouchent sur d'autres formes de capitalisme. Et celle de 2007-2008 a montré que le néolibéralisme menait à une impasse, a volé en éclats.
Oui.
Et c'est le mouvement libertarien.
Tout à fait.
Qui est apparu. Alors, ils ont poussé l'argumentation en disant que, vous voyez, il faut s'écarter des banques centrales, des banques commerciales. Nous, on va venir avec d'autres structures, les crypto-devises, les hedge funds, etc. Mm-hmm. etc. Donc, c'est encore pire, c'est un cancer qui se développe.
Oui.
Ils ont présenté des solutions comme étant, alors que c'était des problèmes.
Oui.
Donc, la crise s'accentue.
Par exemple, dire que la liberté d'entreprendre était un ennemi de la démocratie. La démocratie, plutôt, était l'ennemi de la liberté d'entreprendre.
Oui.
Donc, il fallait moins de démocratie.
Et encore, bon...
C'est Peter Thiel. C'est des paroles de Peter Thiel.
Ce sont des fanatiques. Mais eux-mêmes, de toute manière, le néolibéralisme va à l'encontre du libéralisme. Parce qu'encore une fois, on l'a abordé précédemment, le principe de base du libéralisme, c'est que ceux qui prennent des risques les assument.
Oui.
Et au sein du néolibéralisme, ceux qui assument les risques, c'est le contribuable. Donc, ce n'est pas le libéralisme du tout.
Donc, le contribuable peut être amené à donner son point de vue sur la question.
Il devrait, mais on n'est absolument pas consulté. Donc, on a parlé des impôts. Tout à l'heure, les impôts, donc, d'une part, pour renflouer les banques. Les banques, d'ailleurs, pas seulement en temps de crise, elles ne payent pas l'assurance. Supposons que quelqu'un a une voiture, il doit payer régulièrement l'assurance auto.
Tout à fait.
Les banques disposent d'une assurance qu'elles ne payent pas.
Oui.
Et puis, bon, c'est l'utilisation des impôts. Donc, est-ce qu'on veut que ça soit utilisé pour enfouir les banques ou pour produire des armes ? Parce qu'on va parler de la taxe Zuckman, qui va certainement en bonne direction, mais après ça, il y a l'autre facette. À quoi servent les impôts ?
Oui.
Non, on veut promouvoir la vie, pas la mort. Mm-hmm. Donc, il y a toute une réflexion à mener aussi.
Quand on pense qu'en 1789, on a fait la révolution pour une question de fiscalité...
Pour moins que ça.
Pour moins que ça. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a toujours pas résolu le problème de 1789.
Non, 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 non.
Le 4 août, la nuit du 4 août, c'est l'implosion des privilèges. Mmh. Il n'y a jamais eu autant de privilèges.
C'est insupportable.
C'est insupportable.
Ce qui est fêté chaque 14 juillet, c'est non pas la révolution, c'est la fin de la révolution. C'est le fait qu'elle ne soit pas allée plus loin.
Voilà.
Qu'elle n'a pas touché vraiment les privilèges, justement. Qu'elle soit bornée à certaines choses,
oui.
de base.
Donc le 4 août est à refaire. Mmh. Ou oui. à faire pour une
au XXIe siècle,
au XXIe siècle,
notre époque. Oui.
Voilà. Donc quelque part, ton spectacle, c'est la raison pour laquelle nous sommes ravis de t'inviter
Merci.
Et pour en faire la promotion. Et tu vas dans le bon sens.
C'est notre objectif en tout cas. Oui.
Voilà, ça s'appelle la grande fête à la finance.
Oui.
Et donc je rappelle que c'est au théâtre de l'Opprimé à partir d'aujourd'hui, demain, lundi, 20h30, dimanche. À 17h,
voilà.
Réservation 01 43 40 44 44 ou 06 13 82 08 96
voilà. Donc en
au
présence,
théâtre de l'Opprimé.
Exactement.
C'est 78 rue du Charolais à Paris dans le 12e arrondissement.
Exactement, à côté de la gare de Lyon, donc en présence du directeur de la BERC, Christian Gardeleux.
Excellent. Merci.
Je t'en prie.
Marc, bonne chance.
Merci.
Bonne continuation. Et la prochaine fois que tu fais un spectacle à Paris, on te demande de revenir en parler.
Avec grand plaisir.
Merci. Merci à Frédéric, sans qui il n'y aurait pas d'émission. Alors, je vous dis merci de nous écouter aussi religieusement tous les 15 jours. Je le sais, puisqu'on reçoit vos messages. Faites attention à vous et n'oubliez pas de revenir dans 15 jours à 16h30. Merci beaucoup.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues je vis la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Peinture rouge, il y rue d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains, avant que je perde la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes toutes les Villeneuves. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge. Tu juges ce qui est mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin. Il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage.
Manches indigènes, mais sous des prairies colombiennes, bien tard vous vient ce pardon. Je brisais de haine vos flèches, le vent porteur des cris du Far West m'appelait, pauvre garçon. Moi, guetteur de vos danses de feu, à ces rituels, voyais tous les dieux se cambrer de colère. mais leur breuvage maléfique n'était que pour garder l'éthique de vos tribus séculaires. Chaque lune au lever de la chasse, baisiez le calumet, les traces du gibier au loin vous menèrent. Vos larmes couleur ocre rouge, ce 1492 ont noyé l'arbre de paix. Aux yeux des peuplades anciennes, vint regonfler quelques misaines. Christophe Colomb débarqua, suivirent bétail, canne à sucre, hommes et femmes rêvant du lucre que donnent vos terres mayas. Oh, qu'es-tu devenu, frère Arawak, sorcier dans les forêts de Gaillac, pour les vertus de son bois. Captif aux mains des conquistadors, pour sauver l'Europe de la mort, tu péris pour nos bourgeois. Et lui, ton frère au ventre dolent, vit la poussière porter tes enfants vers les terres à bison. Plus un herbage de votre asile, n'eût ce bovin car Buffalo Bill les massacra par millions. Ces clandestins du fond des coques, vérole, typhus et gonocoque, décimèrent mes indiens. Sitôt menés hors de l'histoire, vous fûtes suivis d'esclaves noirs sustentant nos pays latins. 30 ans après la découverte, grondaient encore les dieux aztèques du haut des pyramides. Les jeunes filles offraient leur cœur en sacrifice, la Cortès vainqueur laissait un monde vide. Ah, mes Comanches indigènes, mes Sioux des prairies colombiennes, oui, bien tard vous vient ce pardon. Depuis, parqués sur vos territoires, par ceux qui vous ont pris la mémoire, on vénère vos dindons.
Yeah. Brasiliam, ot veninta del corpo che canto la flor, flor de la interni esperan. Di la cin venuce mi, aula grec, aula franca, e canto con mi, persa ma voce e diranta del cor esperanto.
Esperanto.
Saluton al ciu.
Saluton.
Saluton al ascoltantoi.
Jen Radio Esperanto. Radio Esperanto en la cadre de Radio Libertaire. Og dek nao komo gvar mega hertzoi. Ni a telefon numero nulo unu, gvar dek tri, sep dek unu, og dek nao gvar dek. Voilà, c'est l'émission de Radio Esperanto, comme tous les vendredis après-midi. Et j'ai pas trop de son dans mes oreilles, mais voilà.
Ça passe quand même.
Voilà, ça y est. Voilà.